Radio Grand Ciel présente Ensemble, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Patrick Grigy. Au micro, Christiane Blain. Je reçois aujourd'hui Jean-Paul Laramé, président de l'Association de protection du patrimoine de Monceau. En effet, chaque année, fin juin, cette association offre un concert gratuit aux habitants de Monceau. Le duo Seigle, habitué de ces concerts, enregistraient dans cette église leur CD « Da Parma à la Scala ». Jean-Paul Laramé, bonjour.
Bonjour.
Alors, comment vous est venue l'idée de cet enregistrement? Et pouvez-vous nous dire comment ce qu'est ce duo Seigle? Car un grand événement se prépare.
J'espère bien. Ouais, l'idée de faire un disque autour des duos de Niccolò Paganini et Alessandro Rolla s'est imposé au gré de différentes rencontres m'ont expliqué Nicolas et Michael Seigle.
Vous les connaissez depuis longtemps ?
Oh là, on se connaît depuis 10 ans.
Ah bon, alors je comprends parce que vraiment il vous adore et on sent, et c'est ça que j'ai aimé dans ce concert à Monceau, il y a entre vous et donc aussi tous les gens qui étaient dans l'église, une sorte de symbiose qui se fait.
Ah, il y a une grande solidarité, oui c'est vrai, une symbiose, vous avez raison, tout à fait. Et donc nous on a commencé avec Nicolas et Michael, parce que leur compositeur est le plus connu, avec les 3 duetti concertanti de Niccolò Paganini, notamment le 2e que les frères Seigle jouent d'ailleurs depuis 2010, je crois. Et ce n'est qu'après d'assez longues recherches qu'ils ont enfin croisé le chemin, et moi avec eux, d'Alessandro Rolla, compositeur et altiste, trop méconnu, et pourtant essentiel par ce qu'il a apporté à la technique instrumentale.
Je dois dire personnellement que je l'ai découvert au concert de Monceau.
Ah ben vous n'êtes pas la seule, hein, parce que quand on parle même avec des mélomanes, Rolla, on ne connaît pas bien,
voilà.
On
ne
connaît vraiment pas bien. Et en effet, si on attribue à Niccolò Paganini le développement de la technique violonistique, c'est son ami Alessandro Rolla qui en est l'initiateur. C'est lui qui a révolutionné le jeu instrumental, notamment en apportant des éléments novateurs comme l'utilisation virtuose des notes aiguës, les jetés d'archet, pour ne parler que de cela.
Oui, parce que c'est quand même très compliqué.
Mais c'est très virtuose et c'est une nouvelle façon d'utiliser les instruments en même temps.
Ah oui, c'est ça.
Et donc, c'est comme ça que Michael et Nicolas ont découvert, et moi avec eux, donc, les 3 duetti d'Alessandro Rolla, et on a acheté la partition qui était éditée. Mais là, leur déception, et puis la mienne aussi d'ailleurs, a été très forte, parce qu'après plusieurs lectures, on demeurait tout à fait insatisfait. La musique paraissait sonner faux. Et j'avais moi-même ressenti cette frustration, d'ailleurs, en écoutant l'un des très rares disques consacrés à ces duetti de Rolla, le dernier qui enregistrait, à ma connaissance, il y a près de 20 ans, en Allemagne, par 2 jeunes filles à cordes, on peut dire, et qui était resté sans lendemain, à juste titre, me semble-t-il, toujours.
Alors ça, c'était quand même terrible, ça.
Pardon ?
C'était terrible, parce que c'était quand même une grande déception.
Ben, c'était une grande déception, parce qu'on avait l'impression, notamment avec les nouveautés qu'ils avaient apportées dans le jeu, qu'on avait trouvé quelque chose d'extraordinaire. Mais on a réussi, enfin Nicolas et Michael surtout, ont réussi à surmonter leur déception première, et ils se sont mis en quête d'un autre matériel plus parlant, si j'ose dire, que la partition éditée. Et puis, miracolo, comme on dit en Italie, ils ont trouvé le fac-similé des 3 duos. Et en lisant cette partition, ils ont eu l'impression d'avoir découvert une autre musique, vraiment. Les articulations, les nuances, le phrasé, et même certaines notes avaient été modifiées dans la précédente édition, ou rajoutées, suivant le style musical des années 1950.
Ah oui, mais alors ils ont trouvé où ce facsimilé ?
Ah, en faisant des recherches, notamment dans les bibliothèques italiennes.
Ah oui, c'est ça. Donc ça avait été en fait très modifié.
Ah ben après, ça avait été extraordinairement modifié pour tenir compte justement de la façon dont on envisageait la musique baroque et puis au-delà la musique du 18e, en 1950. Il y a les enregistrements de grands carillons de musique baroque qui sont à hurler de rire,
c'est
à hurler de rire. On en parlait il n'y a pas longtemps avec William Christie. Il nous a fait écouter des trucs. Mais c'était vraiment... On avait l'impression que c'était une simulation, que c'était une farce.
Oui.
Ah, mais les années 50, on a commencé à découvrir la musique baroque dans les années 60, notamment avec des gens comme Christie, etc.
Ah oui,
faut quand même se rappeler que Rolla, c'est 1757-1840 et Paganini 1792-1841. Donc on est bien dans la musique 18e et tout début 19e.
Donc ils vont complètement laisser la première édition.
Complètement.
Et ils vont justement travailler sur ce facsimilé.
Voilà. Alors, par souci de fidélité au texte d'Alexandre Rolla, et puis par goût pour cette musique vocale italienne, ils ont alors décidé de travailler exclusivement sur le facsimilé donc, qu'on s'était procuré dans les bibliothèques.
Ça,
Et puis, d'autres recherches parallèles, historiques et littéraires, que je les ai aidés à faire d'ailleurs, ont permis de rencontrer vraiment ce couple Paganini-Rolla dans leur amitié, dans leur travail en commun, lorsque l'un était directeur musical de la Scala de Milan, alors que l'autre tenait le poste de premier violon solo même, de cette institution mythique, et sur laquelle ils sont montés en scène tous les deux en duo violon-alto. Ce sont donc non seulement des deux musiciens qui s'entendent, qui se connaissent, mais ce sont vraiment deux amis et qui ont fait des choses ensemble à partir de leur expérience lyrique, l'expérience de l'opéra à la Scala de Milan, qui était le plus grand opéra de l'époque, qui reste un des très grands.
Et est-ce que c'est là que vous avez eu l'idée du disque ?
Alors, l'idée de faire un disque est devenue à ce moment-là absolument évidente, surtout qu'il y a seulement, à ma connaissance, un seul enregistrement de l'intégrale des duetti de Paganini et Rolla qui est sorti en 2007 ou 2008, si ma mémoire est bonne.
Donc,
c'est quelque chose, finalement, qui est assez nouveau. C'est comme ça qu'après les Routes de l'Est, leur précédent CD, le duo Seigle a mis le cap sur l'Italie.
Alors, comment avez-vous décidé d'organiser ou même de présenter ce CD, puisqu'il fallait tenir compte de tous les résultats de ces recherches ?
Alors, comme je le disais il y a un instant, toutes les recherches et toutes les rencontres artistiques et humaines qui ont permis cet enregistrement démontrent que les trois duetti d'Alessandro Rolla et ceux de Niccolò Paganini, sont profondément imprégnés de l'univers de l'opéra et de celui de la comédie. C'est ce qu'on disait ensemble il y a quelques instants. C'est pourquoi on a construit le programme Da Parma alla Scala, puisque c'est comme ça que s'appelle maintenant le disque. On l'a construit comme un opéra, dont les trois actes racontent brièvement les différentes rencontres artistiques et l'amitié qui s'est nouée entre ces deux grands compositeurs-interprètes italiens.
Amitié aussi entre vous et puis les musiciens.
C'est pas la même. Moi, j'ai
n'ai
pas le talent de Roland ni celui de Paganini.
Non, mais c'est très intéressant
de
savoir
c'est une complicité
d'amitié absolument. À tous les niveaux.
Et c'est pour ça que nous avons pu écrire dans le livret du CD que Da Parma alla Scala est un merveilleux voyage dans le monde du lyrisme, de la virtuosité, ça c'est sûr, mais aussi, et peut-être surtout, je dirais, de l'humour.
Ah oui, pourquoi expliquer l'humour ?
L'opéra, c'est... Il y a plusieurs types d'opéra. Il y a l'opéra seria, il y a l'opéra bouffa, il y a l'opéra etc. Et cette idée des partitions qu'on fait Rolla, c'était pas du tout pour faire l'opéra seria, c'était pas dans cette ligne-là. C'était dans l'opéra où on rit. Il y a des restes de commedia dell'arte, quantités de choses. C'est de l'opéra où les instruments permettent d'évoquer la joie, d'évoquer la vivacité, etc. C'est comme ça que ça marche. Parce que souvent, on parle beaucoup des opéras, des grands opéras, notamment Verdi, notamment, qui sont les grands opéras, Seria, etc. Mais à la même époque, il y a aussi Rossini, quand même. Et Rossini, l'italienne à Alger, le turc en Italie, tant d'autres. On rit tout le temps. C'est vraiment une vivacité, un humour, y compris dans les partitions.
Alors, ce merveilleux voyage va donc passer par le Perche, si je comprends bien.
Eh bien...
Je suis votre raisonnement.
Une fois de plus, vous avez tout compris.
Ça me paraît pas trop compliqué.
Parce que pour leur premier album en duo, Michael et Nicolas avaient choisi, avec Passavant Musique, qui est quand même un des... Enfin, je ne veux pas faire de publicité pour pas savoir musique, mais c'est quand même un des très très grands studios français. Notamment pour la musique classique, mais ils font également des disques tout à fait contemporains. Donc, ils avaient choisi de privilégier l'exigence qualité et la rigueur de l'enregistrement, qui sont vraiment très propres à Passavant. C'était un choix payant, puisque leur disque, le premier, sur les routes de l'Est, a été salué par la critique, on dit toujours la critique unanime, enfin bon, faut pas exagérer, mais notamment, ils ont été invités sur France Musique, ils
oui,
ont
fait c'est quand même une référence.
C'est quand même une référence. Ils étaient les invités d'honneur d'une émission de Gaël Le Gallic sur ce disque-là. Oui, donc, oui. Et puis, donc, ils étaient largement mentionnés dans Libération, dans Crescendo Magazine, etc. Et ils ont été invités à la suite à de nombreux festivals, bien sûr, et des scènes musicales. Et je dirais que ce premier succès avec Passavant les a confirmés dans leurs deux credos, et j'insiste là-dessus parce que Monceau a bénéficié d'une partie de leur credo et a forgé une partie de leur credo. Le premier credo,
Monceau, je le rappelle, c'est ce petit village.
83 habitants.
83 habitants.
C'est superbe, pas Bayreuth. Hein.
Absolument superbe. Et qui, grâce à vous et à ce que vous faites, l'église a été vraiment restaurée.
Ah oui, tout à fait, oui.
Voilà, c'est magnifique, c'est une église.
Surtout grâce aux musiciens, encore une fois.
Mais... Oui, mais vous y êtes quand même la cheville ouvrière.
Et si vous voulez, le premier de leur credo, et ça on est complètement, complètement en face tous les deux, c'est la nécessité absolue de tisser des liens humains et d'entretenir le contact le plus étroit possible avec le public. Le deuxième credo, c'est la volonté de découvrir des œuvres peu jouées et de les faire partager à ce public dans des lieux qui ne sont pas nécessairement des lieux de grande renommée, mais où le dialogue puisse être le plus riche. Et c'est ça la force de Monceau.
Oui.
Vous l'évoquiez tout à l'heure, la solidarité qu'il y a entre le public et les interprètes, oui. Qu'on retrouve ensuite dans des dîners, dans des pots, etc. Ça, c'est extraordinaire.
Et puis moi, ce que j'ai aimé, c'est que ce n'était pas un public parisien. C'était un public du village.
Ah, tout à fait, il y a eu du public du village.
C'est ça qui était absolument merveilleux, c'est que tous les villageois étaient heureux d'être dans cette église et d'écouter ce concert.
Et les villageois ont été très associés, très sensibles au fait qu'on enregistre dans leur église.
C'était la renommée, en quelque sorte.
Il y a des gens qui nous ont prêté leur maison, alors qu'ils n'étaient pas là. Pour qu'elles servent d'annexe le truc. Tous les gens à longueur de journée, vous ne voulez pas un café, vous n'avez pas soif, vous n'avez pas, oui. etc.
Mais ça se sentait, moi qui étais au concert,
vraiment.
Et je voyais cette unanimité dans le bonheur.
Mais il y a une anecdote, c'est à la fin, quand l'enregistrement était terminé, le dimanche, on a proposé aux villageois toujours de venir écouter l'enregistrement.
Oui, oui.
Et alors, il y avait une mise en scène, on avait fait une mise en scène un petit peu amusante. C'est-à-dire que Nicolas et Michael Seigle étaient assis avec leurs instruments, leurs partitions, et ils ont commencé à jouer. Et donc, le son était magnifique, c'était super. Et puis, petit à petit, ils ont arrêté de jouer. Et le son était toujours aussi beau, parce que c'était le son qui avait été enregistré.
Ah, formidable. Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale.
Volontiers. Thank you.
Je suis toujours avec Jean-Paul Laramée et nous évoquons un concert qui a eu lieu à Monceau et qui aura lieu à Paris dans la salle Corto. Alors, Jean-Paul Laramée, nous étions arrivés à ce concert, donc, et la question qu'on se pose, c'est concert bien, répétition oui, mais comment arriver au disque ?
Alors d'abord, il a fallu convaincre Passavant Musique, parce que pour eux, un disque se réalise en studio. Il a donc fallu déplacer le directeur artistique en personne pour qu'il s'assure que l'acoustique de l'église permettait de respecter sa méthode d'enregistrement naturelle garantissant le réalisme sonore, évitant l'emploi d'artifices électroniques destructeurs.
Ce sont ces mots.
Fin de citation.
Oui, c'est ça. Je me doutais que c'était ces mots.
Et c'est ainsi que le chemin d'Aparma à Scala est passé par la Chiesa di Monceau-Perse et que la dite Chiesa est présente sur la pochette du CD avec les logos de l'association Patrimoine de Monceau et celui de la communauté de communes des Hauts-du-Perche qui soutient son action.
Vive le Perche, vive le Perche et vive Monceau, parce que toute la vie parisienne va connaître le Perche.
J'espère bien.
À Corto, tout le monde va acheter ce disque et donc le Perche va être peut-être envahi de Parisiens.
J'espère bien.
On espère. Alors, justement, ce disque donc a pu être réalisé. Et justement, pourquoi et où avez-vous choisi de faire passer nos deux musiciens?
Alors, nous avons choisi de le présenter à Paris pour plusieurs raisons. La raison, peut-être la première raison, c'est une raison esthétique. Parce que la salle Corto, c'est une des plus belles salles de Paris.
Voilà, il faut savoir que ce concert donc aura lieu le 13 février prochain et que le public donc pourra découvrir d'Aparma à la Scala et ceci dans cette très belle salle Corto, une des plus belles salles de Paris.
C'est une des plus belles salles de Paris. Parce que, juste pour l'anecdote, Alfred Cortot, ça a été l'un des plus grands pianistes de la première partie du XXe siècle. C'était également un pédagogue d'exception et c'est lui qui a créé l'École normale de musique de Paris en 1919. Alors, il souhaitait mettre à la disposition des élèves un lieu où se produire en public. Pourquoi il a sollicité un architecte, c'est assez connu, qui s'appelle Auguste Perret.
Qui a fait beaucoup d'immeubles dans Paris.
Absolument, absolument. Pour construire en 1929 la salle des concerts de l'École normale de musique de Paris, qui est devenue par la suite la salle Corto. C'est un projet typique de l'esthétique art déco.
Donc maintenant, tout le monde saura que la salle Corto porte le nom d'Alfred Corto, un des plus grands pianistes donc, de voilà. La première
Alors, cette salle se distingue par sa modernité, bien sûr, 29, et par sa structure en béton armé brut recouvert de bronze doré et les murs plaqués de bois Dokoumé. Ça a été confié à Auguste Perret. Et lorsque Alfred Cortot a fait la réception de la cérémonie de réception de la salle, il a remercié l'architecte d'un compliment très musical que je me permets de vous lire. Auguste Perret nous avait dit « Je vous ferai une salle qui sonnera comme un violon ». Et il a dit vrai. Mais il se trouve, ce qui dépassait nos espérances, que ce violon est un Stradivarius.
Oui, c'est quand même pas mal. C'est le plus beau des violons, effectivement. On en trouve très peu, d'ailleurs, encore maintenant.
Oh ben oui, nous avons aussi choisi la salle Corto pour des raisons un peu sentimentales, parce que c'est en effet la salle de l'École normale de musique de Paris où Davy Herly, qui était le créateur des concerts à Monceau et le découvreur de l'acoustique de son église, c'est là qu'il a enseigné la musique de chambre pendant plus de 15 ans, notamment à Michael Seigle, qui était son disciple favori. Donc
oui, alors
là,
vraiment,
il y a un côté un peu sentimental. Puis la dernière raison qui nous a amené à choisir Corto est d'ordre pratique. D'abord, nous savons qu'une grande partie des accourus et des percherons qui prennent grand plaisir au mois de juin en concert dans l'église de Monceau accourraient en moins grand nombre si le concert se donnait dans les frimas hivernaux. Ensuite, il est incontestablement plus aisé pour attirer le public parisien de proposer un concert dans une salle parisienne très séduisante plutôt que de l'inciter à affronter le froid, les embouteillages et peut-être même les gilets jaunes sur 200 km.
Mais est-ce que quand même vous y aviez pensé?
Ah, À le faire à Monceau ?
Oui.
Impossible. Impossible au mois de février.
Ouais, c'est ça.
Là, il doit faire 4 degrés dans l'église. Si on fait le chauffage, le son n'est pas bon. Non, c'était vraiment impossible.
Dans les
puis
concerts...
encore un dernier point quand même, oui. Qui n'est pas négligeable, c'est que l'expérience démontre que la grande majorité des journalistes, des animateurs spécialisés dans la musique classique, qui sont pour les artistes et les organisateurs la cible hautement privilégiée, ne se déplacent hors Paris intramuros que peut-être pour le festival d'Aix-en-Provence ou celui de Beaune, et malheureusement, nous n'en sommes pas encore là.
Oui, oui, mais à partir du moment où on va voir les CD avec l'église de Monceau, les collines du Perche, j'ai l'impression que l'année prochaine, en juin, vous aurez certainement beaucoup de journalistes qui viendront faire...
On peut l'espérer, mais ils ne se déplacent pas beaucoup. Ou alors, il faut leur payer leur déplacement, leur hôtel 4 étoiles, etc. Enfin, je ne veux pas dire du mal, mais...
Non, mais
donc,
je pense
c'est bien Salle Courtauld, 78 rue Cardinet, que le duo Seigle fera escale sur le chemin de la Parma à la Scala, le 13 février à 20h30 précise.
Oui, alors ça, c'est très important. Chers auditeurs, notez Salle Courtauld, 78 rue Cardinet, c'est là que le duo Seigle fera escale sur le chemin de Parma à la Scala. Et ça, ce sera le 13 février à 20h30 précise. Alors, est-ce qu'on peut réserver ces places où peut-on réserver
Évidemment.
Ces places?
Alors, on peut les réserver par Internet sur le site de la FNAC, que tout le monde connaît.
Oui.
On tape billetterie et on tape Da Parma à la Scala et on achète les billets et la FNAC le renvoie au destinataire tout de suite.
Oui.
Et alors, il y a une autre façon, c'est toujours par Internet, en se connectant sur le site de l'association. Alors, je vais le dire, c'est info@monceaupatrimoine.fr. Monceau, MONCEAUX. Je n'appellerai pas patrimoine, ça va de soi. Le prix des places, c'est de 25 euros directement sur le site, 27,50 sur la FNAC, compte tenu de la commission qu'évidemment elle prend sur tous les billets réservés par son intermédiaire. Les places réservées par la FNAC sont payables en ligne et expédiées à l'adresse du réservateur. Celles qui sont réservées sur le site de l'association sont payables directement à la Salle Courtauld, juste avant le concert. Et nous espérons qu'il y aura beaucoup de gens qui assisteront à ce concert.
Oui, alors moi, je voudrais quand même vous demander si, dès le mois de juin, vous avez encore des idées pour un prochain concert.
Le prochain concert du mois de juin prochain.
Voilà.
Alors, je ne vais pas vous le révéler, il faut quand même garder
non,
les secrets.
Mais
le prochain concert du mois de juin, ça sera le concert anniversaire.
À combien d'années ?
Alors, en fait, ça fait 11 ans qu'on fait qu'on a fait le premier concert à Monceau. Simplement, on a arrêté en 2011, puisque le 13 février 2011, coïncidence des dates, David Ehrlich s'est fait renverser par un camion et est mort sur le coup. Donc, juin de 2011, personne n'avait le cœur à le faire, donc on a arrêté. On l'a repris en 2012, donc sous la direction de Michael Seigle. Et maintenant, donc ça fera 10 ans, 10 ans de concert.
Ah oui, là
alors,
c'est un bel anniversaire, 10 ans, une dizaine.
Je ne veux pas dévoiler, mais on est en train d'essayer de retrouver des jeunes musiciens, musiciennes, qui ont participé à tous les concerts, et puis les faire venir, rejouer peut-être des morceaux qu'ils avaient déjà joués. C'est un tout petit peu compliqué, parce qu'il y en a certains qui sont partis au Japon, d'autres qui sont partis en Chine,
oui.
D'autres qui sont partis en Corée du Sud, d'autres qui sont partis au Canada. Ça nous ferait des frais de billetterie très gros.
Et vous en avez déjà retrouvé quand même ?
Ah oui, on les connaît tous, on est assez régulièrement en liaison avec eux, parce que pour eux, les concerts à Monceau ont été un peu le début de carrière aussi.
Ah oui,
hein. C'était peut-être leur premier concert vraiment en grand public.
Ah oui.
Et en plus, ils ont adoré Monceau, le
Perche. Et votre maison aussi, parce qu'il faut dire que vous recevez très bien. Donc, pour les musiciens, je sais que...
Ah, puis c'est à l'École normale de musique de Paris, comme au conservatoire, mais peut-être encore un peu plus qu'au conservatoire, il y a énormément d'élèves qui viennent de l'Extrême-Orient.
Ah, oui.
Et j'ai le souvenir, par exemple, de deux jeunes femmes qui étaient deux violonistes, d'ailleurs, qu'on avait été chercher à la gare de la Loupe. elles avaient toujours vécu, elles étaient nées à Tokyo, avaient toujours vécu à Tokyo. Et donc, quand elles sont débarquées à la Loupe, elles ont vu une campagne verte avec des prairies, des vaches. Elles n'avaient jamais vu de vaches de leur vie. Elles n'avaient jamais vu de prairies de leur vie. Et elles étaient extraordinaires. Elles prenaient, je ne sais pas combien, 100 photos à l'heure. Quand elles sont arrivées dans l'église, elles n'avaient jamais vu une église. C'était une découverte. C'était Christophe Colomb arrivant en Antilles. C'est des beaux souvenirs, vraiment très beaux souvenirs.
Et vous avez gardé leur adresse
On a gardé leur adresse, oui, on est assez régulièrement en contact, soit moi directement, soit Michael Seigle, évidemment, oui. qui a fait ses études avec la plupart d'entre eux.
Je pense que les Seigles viendront,
Michael Seigle. Les viendront, évidemment.
Ça oui, évidemment. On ne peut pas ne pas les avoir.
Et puis on a découvert le réveillon de cette année, il y a quelques jours.
Mais oui. Moi, j'ai bien regretté. Ça devait être un grand moment.
On a découvert une jeune soprane, qui est soprane à l'Opéra de Saint-Étienne, donc à côté de Lyon, évidemment, et qui est éblouissante. Éblouissante, vraiment.
Elle est jeune.
Elle est très jeune, elle doit avoir 24 ans. Elle ne chante pas encore les grands rôles du répertoire. Elle a une voix magnifique, une belle technique, et elle joue la perfection au sens théâtral, au sens remarquable.
Et là, dans quoi vous l'avez eu ?
J'avais imaginé un réveillon qui soit un dîner et opéra en même temps.
Oui.
Sur des musiques, il y en a énormément, c'est des musiques, Bernstein en a écrit, curieusement. Évidemment, Offenbach en a écrit beaucoup, Rossini, bien sûr. Le Tourne-d'eau Rossini.
Oui, on connaît. Même,
on a passé un merveilleux réveillon, ça. Sûrement. On aurait aimé que l'année 2018 dure une heure de plus, en fait.
Eh bien, moi, je vous rappelle, chers auditeurs, que c'est à la salle Courtauld, 78 rue Cardinet, que le duo Seigle fera escale sur le chemin d'Aparma à La Scala, le 13 février 20h30, précise. Pour prendre des places, eh bien, info@monceau.fr, et ainsi vous aurez toutes les coordonnées pour pouvoir venir à cette salle Courtauld. Je vous rappelle également, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci Jean-Paul Laramé, à bientôt.
À bientôt, j'espère. Thank you.